Bonjour à tous. J'aimerais ce matin partager quelques pensées. Et je commencerai par la lecture d'un verset dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 12. On est là dans une lettre adressée à une église, Apocalypse 3, 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » J'aimerais ce matin m'arrêter sur le fait d'être une colonne ou d'avoir en soi des colonnes qui permettent de tenir, de maintenir nos vies en place et de glorifier Dieu. J'ai passé une bonne partie de ma semaine à Paris sur un congrès scientifique lié aux addictions. C'était la Société française d'addictologie qui réunissait tous ses membres pour travailler sur un thème, c'est l'efficacité des thérapies sur le champ de l'addiction. Qu'est-ce qui est efficace? Comment c'est efficace? Comment on étudie l'efficacité des thérapies médicamenteuses ou des thérapies, psychologiques ou psychothérapies? Et puis, on a fait beaucoup de travaux, on a eu beaucoup de travaux qui nous ont été présentés sur l'effet ou le calcul de cette efficacité qui se fait maintenant de manière très scientifique, que ce soit au niveau des médicaments ou que ce soit au niveau des psychothérapies qui sont appliquées. Il y a des fois, j'avais du mal à suivre, mais c'était très intéressant. Et puis, tout au long de ce congrès est arrivé le principe de l'effet placebo des médicaments ou des thérapies que nous appliquons. Tout médicament a un effet placebo. Tous. Mais toute psychothérapie a aussi un effet placebo. C'est-à-dire que sans que ce soit véritablement, je dirais, un médicament, mais un placebo, un simili-médicament, sans que la personne le sache, eh bien, on constate un certain pourcentage, parfois assez élevé, de guérison par l'usage d'un placebo. C'est admis, c'est scientifique, il y a des études, ce qu'on appelle des études en double aveugle, qui permettent de vérifier sur 100, 200, 600, 1000 malades, eh bien, ceux qui ont reçu le placebo, ben, il y en a certains qui sont guéris quand même. Parce que, quelque part, ben, la capacité de l'homme, là aussi, à rentrer dans une démarche de guérison, parfois dépasse la puissance du médicament. Et j'écoutais pendant ces trois jours d'intervention attentivement les calculs, les tableaux, les grilles, etc. Et je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que la foi en Dieu serait finalement un placebo pour l'homme pour supporter en tout cas le poids de la vie, trouver une solution à la question de la souffrance, trouver un chemin peut-être aussi pour vivre des guérisons de l'âme, du corps, parfois. Je me disais, tiens, est-ce que c'est pas ce que nous renvoie le monde, parfois, en disant, mais oui, mais vous, votre foi, ce n'est jamais qu'un effet placebo qui vient guérir les choses, puisque Dieu n'est pas là. Puis en réfléchissant, je me disais, mais non, finalement, l'effet placebo, il est dans la croyance du monde qui consiste à penser qu'il peut vivre sans Dieu, qu'il peut être heureux sans Dieu, qu'il peut vivre, je dirais, une libération de ses souffrances, du poids du péché sans Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Il y a certains qui finissent par y croire. C'est ça l'effet placebo du monde. Ils pensent qu'ils peuvent vivre sans Dieu, guérir, avancer, trouver un chemin face à la souffrance, aux interrogations de la vie. Et c'est un effet placebo parce que la réalité ne se trouve qu'en Jésus-Christ, que dans la réconciliation qu'il y a entre l'homme et son Dieu par Jésus-Christ. On peut essayer plein de médicaments placebo pour trouver un autre chemin, il n'y en a pas d'autre. Et ce matin, j'avais envie de parler de ce qui est dans cette relation nécessaire comme fondement intérieur, comme colonne intérieure pour permettre de vivre cette vie et cette relation avec Dieu. Jean-Louis nous a parlé de l'urgence du salut il y a une quinzaine de jours, je crois. L'urgence du salut. Combien il était urgent, non seulement que nous soyons au bénéfice de ce salut jour après jour, mais que nous puissions l'annoncer au monde aussi, à ceux qui sont dans cette illusion que la vie est possible sans Dieu et sans passer par Jésus-Christ, de leur dire, eh bien voilà, il y a là urgence. Ne prenez pas des placebos, prenez ce qui guérit et qui sauve réellement, à savoir Jésus-Christ. Laurent, la semaine dernière, nous a parlé de la foi. Après l'urgence du salut, je trouvais qu'on avait un chemin là, d'enseignement qui était tout à fait cohérent. Comment la foi, là aussi, est nécessaire pour trouver le chemin de la vie. C'était un des points de la prédication, la foi comme chemin. Il n'y en a pas d'autre. Christ disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et aujourd'hui, je voulais continuer avec cette pensée. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme, dès lors qu'on fait le choix de vivre sa foi en Christ, quelles sont les colonnes indispensables en soi pour pouvoir être un témoin de Christ et être de ceux, comme le dit l'Apocalypse, qui vaincront. Parce que nous avons bien le désir de vaincre, non pas de vaincre des hommes et des femmes qui nous sont opposés, j'ai même envie de dire, non pas de vaincre l'adversaire, ça c'est Christ qui le fait, mais de vaincre dans notre vie tout ce qui cherche à nous attirer en arrière et à nous faire reculer sur le terrain du salut. Alors, ces colonnes, il y en a deux qui sont bien connues dans l'Ancien Testament. On le voit dans le premier livre des Rois, chapitre 7, verset 21. Il est dit que Salomon, lorsqu'il édifia le temple, fit dresser des colonnes près du vestibule du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela du nom de Yakin, et il dressa la colonne de gauche et l'appela du nom de Bose. On dresse deux colonnes devant le temple. Une qui s'appelle Yakin, qui signifie « Dieu a fermi », et l'autre, Boaz, « En lui est ma force ». C'est un certain Hiram qui était un ouvrier, ou en tout cas quelqu'un qui avait une connaissance de la construction, qui a participé à l'édification de ces deux colonnes. J'ai vu beaucoup de dessins, de représentations du temple, et on voit ces deux colonnes. La particularité, c'est qu'elles sont ces deux colonnes, mais qui ne soutiennent rien, me semble-t-il, ou en tout cas qui sont là devant le temple et qui sont entre le ciel et la terre. Moi, j'aime beaucoup cette représentation de ces colonnes par lesquelles on doit rentrer et qui sont, je dirais, presque un trait entre le ciel et la terre. Rentrer dans le temple, c'était là aussi faire un chemin où on passe de la terre au ciel. Alors, quelles sont les colonnes qui devraient être là aussi présentes dans nos vies et qui peuvent, dans nos existences, nous permettre de tenir debout, ferme. Comme le disait Paul à Timothée, « Toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. » Ça, c'est une parole, je dirais, d'exhortation. Mais comment arriver à tenir dans cette position de supporter les souffrances, d'annoncer la bonne nouvelle, d'assumer son ministère et son appel, si nous n'avons pas en nous des colonnes qui tiennent, qui fassent tenir debout l'être que nous sommes, l'être spirituel que nous sommes. Alors, une des premières colonnes qui, moi, je cite souvent, c'est la colonne qui consiste à avoir cette assurance, certitude. Moi, Jean-Marc Wang To, je suis l'expression du désir de Dieu. Je suis l'expression du désir de Dieu. Être sur le terrain du fait que ce que je suis tout entier en tant qu'homme ou en tant que femme repose sur le fait que Dieu m'a désiré. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui n'est pas désiré. Et nous parlions notamment sur ce congrès de la place de la honte, de la culpabilité par rapport aux personnes addictes. Eh bien, souvent revenait cette question du désir. Est-ce que je suis quelqu'un qui a été désiré et de ce fait en capacité de désirer aussi? Et là, l'élément principal, premier, c'est cela, être désiré. Je lisais avec attention un mémoire qui va être présenté par un homme que j'aime beaucoup, qui est venu ici, puisque c'est Naed Abderrahman qui est venu au concert, faire un concert ici, et qui présente son mémoire qui est sur la santé et le bien-être à partir de l'écriture. Donc il a fait tout un travail, lui qui est infirmier en psychiatrie, et il parlait de... Il utilisait à un moment donné l'image de Jonas. Il dit, Jonas, à un moment donné, il a été pris par le poisson. Alors, il y a, semble-t-il, dans le texte hébreu, mais je n'ai pas été vérifié, le fait que quand il est pris par le poisson, c'est un poisson, et quand il est rejeté par le poisson, c'est une poissonne. Alors, je voudrais vérifier ça. C'est au féminin. C'est comme un enfantement. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il est rentré dans le sein du poisson comme un nouvel enfantement pour aller vers une nouvelle vie. Je trouve l'image belle. Savoir que Jonas, quelque part, il n'a pas été enterré, oublié, mais quelque part, il a dû vivre un nouvel enfantement, une nouvelle vie. Et c'est pour ça que, semblerait-il, le terme « poissonne » apparaît au moment où le poisson le rejette sur la grève. Et je pense que dans cette nouvelle naissance, il y a une prise de conscience pour Jonas que, au-delà de la mission qui lui était proposée, il était dans une démarche à adhérer au désir de Dieu et à savoir qu'il était aussi, lui, désiré de Dieu. Et la nouvelle vie, je pense, la nouvelle naissance, c'est quand on prend conscience du désir de Dieu par rapport à moi. Je suis quelqu'un qui a été voulu par Dieu. On trouve beaucoup dans la parole de Dieu des hommes, surtout des hommes malheureusement, j'ai envie de dire. On voit moins de récits sur les femmes, mais peut-être parce que les hommes ont plus besoin d'entendre et de vivre certaines choses, de les comprendre. Mais on voit beaucoup d'hommes de Dieu qui ont vécu cette question du désir comme une reconquête nécessaire. On pense à Moïse, quand dans son époque, le pharaon a décidé de faire noyer tous les juifs qui naissaient et les hommes en disant, ben voilà, vous jetterez au fleuve, vous noirez, vous tuerez en tout cas tous les enfants mâles parce que Israël prospérait et que le pharaon commençait à craindre pour la sécurité de son empire. Et lorsque Jochébed a enfanté Moïse, on peut se poser la question si, dans la prière de Jochébed, il n'y avait pas pourvu que ce soit une fille. Si c'est un garçon, il sera noyé, il sera tué. Comment Moïse a-t-il vécu cela? Le fait d'avoir été un enfant, peut-être désiré, mais abandonné. Souvent, les vies que nous vivons sont marquées par le désir, là aussi, qu'il y a eu dans les générations précédentes, ou l'absence de désir. Dans certaines familles, certaines cultures locales, les enfants portent le nom d'un parent décédé, vous savez. Je trouve ça très particulier de porter le nom d'un parent décédé. Et j'ai connu une patiente qui a porté le nom de la sœur qui l'a précédée, qui était décédée, et pour laquelle il y avait eu comme une perte d'identité. Toute sa vie durant, en fait, elle a souffert de cette réalité. Est-ce que j'ai été voulu ou est-ce que je remplace l'autre? Le sentiment d'être désiré. Moi, j'ose dire, je suis désiré de Dieu. Désiré de Dieu. Et cela fonde, là aussi, ma relation à mon Père. La première prière que Christ nous laisse, c'est « Notre Père, notre Père ». Il établit ce lien de filiation indispensable. Il a voulu que je sois son enfant, son fils. Est-ce que là, j'ai cette assurance en moi ? David, qui était un homme de foi, avait aussi cette difficulté à se savoir désiré, oublié par le Père quand le prophète vient pour choisir le futur roi. On voit dans toute sa vie cette difficulté, ce manque de confiance en lui-même, dans les psaumes où il dit « Je suis comme une simple puce sur le dos d'un chien ». Il dira même à Saül contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre ? 1 Samuel 24, 14. « Qui poursuis-tu ? Un chien mort ? Une simple puce ? Est-ce que je suis voulu de Dieu ? Est-ce qu'il y a cette certitude-là dans mon cœur ?» Lorsque Dieu choisit Moïse, Moïse lui dira « Je ne peux pas, j'ai la langue embarrassée. » J'aime beaucoup le mot hébreu, je ne me rappelle plus, qui parle du bégaiement, mais c'est un mot qui fait comme un bégaiement. « J'ai la langue embarrassée. » Être embarrassé, avoir difficulté à se dire, à s'exprimer, simplement parce qu'on a le sentiment de ne pas forcément exister. Moïse, certainement que son bégaiement, il n'est pas venu de nulle part, il vient aussi de son histoire. Prince d'Égypte, certes, mais qui bégayait, dont la parole ne pouvait pas s'exprimer librement. Or, la parole, c'est l'expression de ce que je suis, de ce que je vis. Est-ce que cette réalité est en moi ? Chacun de nous est voulu par Dieu. Je n'ai en face de moi que des personnes qui ont été voulues par Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard, le fruit d'une rencontre, l'aléa de deux êtres qui se sont unis. Je suis quelqu'un qui a été désiré et voulu par Dieu. Je n'ai que des êtres voulus par Dieu en face de moi. Vous vous rendez compte ? Vous êtes des gens merveilleux. Vous êtes fantastiques. Passer à côté de vous en vous ignorant, ce serait passer à côté de quelqu'un que Dieu a voulu. C'est ce qui donne la richesse de l'autre, son intérêt, son importance. Dans le psaume 139, verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. » Il y a quelques semaines, je disais à une de mes patientes qui était vraiment dans une position de doute sur ce qu'elle était, ce qu'elle vivait, et en même temps qui avait fait un tel chemin de soins et de guérison, je dis « Écoutez, je vous propose une chose. Que je vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, ça ne vous servira pas à grand-chose. » Que j'essaye de vous convaincre de la valeur que vous avez, ça ne servira pas à grand-chose. Je vous propose une expérience, c'est que vous montiez dans votre chambre. Et au-dessus du lavabo, il y a quelque chose qui s'appelle un miroir. Et là, vous vous placez devant le miroir et vous dites à la personne que vous voyez, « Waouh, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu es quelqu'un d'important. » Et combien parfois nous l'oublions. Nous nous laissons submerger par les tracas, les soucis, les paroles des autres, ce que nous dit la société sur nous-mêmes. Ah, t'es trop gros. T'es pas assez beau. T'es pas assez riche. T'es pas ceci, t'es pas cela. Et on finit par être envahi par le regard de notre société et nous oublions que Dieu nous dit « Tu es l'expression de mon désir ». Tu es l'expression de mon désir. Une autre colonne qui me semble indispensable dans chacune de nos vies, c'est de dire « Je suis aussi quelqu'un d'unique ». Il y a un film et surtout un roman que j'ai lu il y a quelques mois, qui est ce roman, j'ai oublié le titre, mais où c'est l'histoire d'une jeune fille américaine dans les années 50 et qui va écrire un livre sur l'histoire des femmes noires américaines qui sont utilisées comme servantes domestiques, etc. La couleur des sentiments, merci. C'est un très très beau livre et qui parle justement de la ségrégation, etc. Et à un moment donné, il y a l'héroïne de ce roman qui travaille dans une famille et qui a élevé plusieurs enfants. Et elle s'occupe d'une petite fille qui est assez rejetée par sa mère. Et en fait, c'est elle, en tant que nurse, qui va lui inculquer les choses essentielles. Et la seule phrase qu'elle lui dit, « N'oublie jamais que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un d'importante. » D'importante. Et c'est la dernière phrase qu'elle lui dira quand elle sera renvoyée. « N'oublie jamais, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'important. » Et Dieu nous dit cette même chose, tu es quelqu'un d'unique. C'est une pianiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hélène Grimaud, qui est pianiste et concertiste, et qui disait dans une interview, comme une prière, « Je ne te demande pas d'être la meilleure, je te demande d'être unique. » Ça, c'est une belle prière. « Je ne te demande pas d'être la meilleure ou le meilleur. » Je te demande, Seigneur, d'être unique. Que j'ai ce sentiment, cette conscience en moi de ce caractère d'unicité. Je suis unique. J'ai beaucoup pensé à cette phrase-là, en sachant que dans la pensée de Dieu, l'homme en général a une place unique dans la création, mais chaque individu que nous sommes est unique. Dans le psaume 8, il dit de l'homme, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est une parole, alors on va se dire, oh oui, mais c'est global et c'est général. Et si je mettais mon nom à la place, si je prenais cette parole comme une parole de Dieu s'adressant à moi, tu m'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous mes pieds. » Ah ouais, là, tout à coup, on se dit, oula, c'est pas de l'orgueil. Est-ce que c'est vraiment pour moi une parole de cette nature? Il y a dans la pensée de Dieu le fait que l'être humain, l'homme et la femme, sont des êtres uniques, voulus par Dieu et désirés par Dieu. Ah, se sentir l'objet unique de son amour et de son attention. Dans un texte de l'Écriture, il dit que Dieu, tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. C'est ce que Dieu dit à qui ? À Abraham. À Abraham. Voilà pourquoi je vais solutionner la question qui nous rassemble là. Et il voit un bélier, les cornes prises dans un buisson. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi Dieu qui dit, ben, je ne t'ai pas refusé mon Fils unique à moi. Pourquoi ? Parce que toi, tu es aussi unique pour moi, dit Dieu. Une place unique dans le monde, dans l'Église, là où je suis placé, dans ma famille. Moi, je suis l'enfant aîné de 8 enfants. Comment être unique quand on est l'aîné de 8 enfants ? Ce n'est pas évident. Et je pense que dans les familles nombreuses, la difficulté de se sentir unique et désiré tient aussi au nombre d'enfants qui sont autour de soi. Moi, j'étais le premier. Quand j'en ai vu 7 arriver derrière, je me suis dit « Oula, suis-je unique ?» Et ma mère m'a dit, oui, mon fils, tu es unique. Elle aurait pu me le dire. Moi, j'étais la 19e de 21. Alors je me disais, oui, effectivement, dans ma fratrie, on est un petit peu plus unique que dans la sienne. 19 sur 21. Je crois que c'est 19, hein, 19 sur 21. 20 oncles et tantes. Vous imaginez pas les cousins. On ne fait pas de cousinade dans notre coin parce que. Mais se sentir unique. Là où Dieu me place. L'apôtre Paul parlera de cette caractéristique en utilisant l'image du corps. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Combien y a-t-il de membres du corps qui sont uniques dans cette salle ? Et qui ont, du fait de ce caractère unique, un sens, une place indispensable pour servir Dieu, pour servir l'autre, pour être à côté de l'autre et lui apporter ce dont il a besoin. Ah. C'était facile pour Isaac d'être le fils unique, parce que son demi-frère avait été renvoyé et parce que toute l'attention de son père et de sa mère était là sur lui. Mais Dieu me dit aujourd'hui et maintenant, tu es unique pour moi. Et si je le vis intérieurement comme une conviction, comme une foi, là aussi, de cet amour unique du Dieu et du Père pour moi, eh bien, il y a des guérisons à la clé. Il y a des victoires. Ce que disait l'auteur de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Mais je dirais, le fait de pouvoir accepter cette réalité me donnera là aussi des guérisons et des victoires. Un point qui... Être unique, c'est bien. Mais être unique sans être aimé, ce serait pas terrible. Hein ? Il y a des fils uniques qui sont pas forcément bien aimés. Un des piliers, une des colonnes intérieures qui sont indispensables dans notre vie, c'est le sentiment d'être aimé et d'être aimé du Père. On a beau dire tout ce que l'on veut théologiquement parlant sur la question du salut, la question du salut, elle est centrée sur le fait que le Père m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que, en croyant, j'ai la vie éternelle. Le centre de mon salut, c'est l'amour du Père. C'est, on va dire oui, c'est aussi une question, logique entre le péché, la faute, la nécessité. Mais c'est l'amour du Père. Le Père qui, dans l'éternité passée, a laissé la parole dire que la lumière soit, en sachant qu'il viendrait ensuite, quand la création serait accomplie, donner son Fils sur la croix. C'est l'amour du Père qui est au centre du salut. Il y a ce chant que nous avons chanté récemment pour les obsèques d'Adèle, et qu'elle avait choisi elle-même. Donc Adèle, notre amie qui est partie il y a quelques semaines. Et elle avait choisi ce chant qui est d'origine catholique, mais que les protestants connaissent aussi, c'est « Trouver dans ma vie ta présence ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, se savoir aimer. Lorsque dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse et lui dit « Ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Alors quand je dis premier amour, c'est pas seulement celui que tu aimais, mais peut-être aussi celui qui t'aimait. Celui qui t'aimait et qui te dit aujourd'hui « Tu as oublié ton premier amour. » Hein ? Parce qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera. Prendre conscience de l'amour de Dieu à la conversion, c'est une merveilleuse chose. Pour moi, ça a été un bouleversement, un raz-de-marée, quelque chose d'incompréhensible. J'étais aimé. Ça a bouleversé ma vie et je pense que ça a bouleversé la vôtre. Mais qu'en est-il de cet amour-là aujourd'hui ? De la prise en compte de cet amour. Oh oui, je sais que je suis aimé, mais les soucis sont tellement grands. Les difficultés sont tellement présentes. Il y a tellement de questionnements dans ma vie. Il y a tellement de doutes, de craintes, de peurs. Bien sûr, je sais que je suis aimé. Mais, le mot « mais », vous savez, c'est un mot étonnamment puissant. C'est peut-être un des premiers mots, je dirais, qui peut bouleverser nos vies. J'aime beaucoup ce film avec Gérard Jugnot qui joue un psychothérapeute. Et dans le film, le titre du film est « Oui, mais ». Toutes nos vies sont marquées par des « oui, mais ». Là où Dieu nous dit que ton « oui » soit « oui » et que ton « non » soit « non », nous marquons nos positions non pas du « non ». Oh non, on n'est pas dans la désobéissance, dans le refus. On n'est pas à dire à Dieu « Ah non, je ne veux pas !» On lui dit « Oui, mais !» Et c'est ce qui fait la différence entre des vies qui peuvent rentrer dans la plénitude de Dieu, dans la grâce, dans la bénédiction, et puis des vies qui sont à l'arrêt, des vies qui sont dans la souffrance, des vies qui sont dans le questionnement. Oui, mais ce savoir aimer, je suis aimé de Dieu. Vous savez, je pensais à la foi dont parlait Laurent la semaine dernière, cette foi qui consiste à croire que je suis aimé de Dieu au point qu'il ait donné son Fils. Et s'il y a bien un peuple sur la terre qui a l'assurance d'être aimé de Dieu, c'est bien le peuple d'Israël. Je me tourne autour sur ma droite parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas me contester la position. Hein. Je sais qu'en Israël, la conscience d'être aimé de Dieu a été jusqu'à croire qu'un peuple qui avait disparu de la surface de la terre dans les années 50 a pu se réapproprier un pays. C'est le seul peuple sur la terre qui a eu le sentiment que l'amour de Dieu était tel que les choses s'accompliraient. Quand même pas mal. Et mon professeur d'hébreu me racontait une histoire. Après la guerre des six jours, vous savez, quand Israël a réussi à résister à plusieurs adversaires, à remporter la victoire en quelques jours, on raconte l'histoire que Ben Gourion a été confronté en Israël à de sévères problèmes économiques, etc. Et donc, il a réuni dans son bureau Golda Meir et Moshe Dayan, donc des ministres de son gouvernement. Et une histoire qui parle de cette foi, de cette conscience d'être aimé de Dieu. Et Ben Gourion disant à Golda Meir et puis à Moshe Dayan, bon, ça va, on a remporté des victoires, mais là, économiquement parlant, c'est la galère. On n'avance plus, on est en grande difficulté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Il est dit que Moshe Dayan a pris la parole en disant, bah, c'est simple, hein, l'histoire nous dit les choses, il y a peut-être une solution. Alors, Golda Meir et puis Ben Gourion l'ont regardé, mais laquelle? Il dit, bah, l'histoire nous a montré que, par exemple, en 14-18, l'Allemagne a déclaré la guerre à toute l'Europe. C'était une catastrophe, je vous l'avoue. Ils ont perdu. Mais après, ils ont été tellement aidés, ils sont devenus la première puissance économique d'Europe. Il dit, bah, 39-45, la même chose. Regardez, l'Allemagne déclare à l'Europe, la guerre à l'Europe. Le Japon déclare la guerre aux États-Unis. Ils sont vaincus. Et quelques décennies après, c'est les plus grandes puissances économiques du monde. Alors, il y a Golda Meir qui dit, mais c'est quoi l'idée? Déclarons la guerre au monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'Asie, on perd, et puis après, on devient une puissance économique. Et puis, il y a Golda Meir qui la regarde et dit, oui, mais si on gagne? C'est une histoire, j'étais pas dans le bureau pour l'entendre. Mais un tel sentiment, mais on est tellement aimé de Dieu que tout peut arriver. Est-ce que vous avez cette pensée-là en vous? Ce sentiment d'être tellement aimé de Dieu que tout est possible avec lui en moi. Est-ce que cette colonne, ce pilier en vous existe? Et puis, je terminerai avec un dernier pilier, je m'arrêterai là. Dernier pilier, si le suivant, c'est d'être conscient, d'être aimé de Dieu, le pilier suivant, ce serait le plaisir et la joie d'aimer. Le plaisir et la joie d'aimer. Être aimé, c'est bien. Mais vous savez, ce qui est bien aussi, c'est quand on aime. Parce que des êtres, des individus peuvent passer leur vie à ne pas aimer, à être dans un électrocardiogramme d'amour plat. Et la vie n'a aucun relief. Oh, j'ai beau être aimé, mais si je n'ai pas en moi cette capacité à aimer, alors la vie n'a pas de relief, ni de saveur, ni de goût. Ah, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, dit le psalmiste au psaume 26. Qu'est-ce que c'est génial d'être dans ta maison! Alors, je ne sais pas comment vous avez fait ce matin. Il y a certains qui, devant le miroir, se rasent et rêvent d'être président de la République. Et puis d'autres qui peuvent se raser, je parle pour les hommes, et pour les femmes se pomponner. et se dire « Waouh, génial, ce matin, je vais aller à la maison du Seigneur avec mes frères et mes sœurs et je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a en moi cette certitude. Je veux aimer et j'aime être dans ta maison. » Pourquoi ? Parce que j'aime être avec toi, Seigneur. J'aime ta personne. J'aime ce que tu es. Pas simplement ce que tu fais. Ah, compte les bienfaits de Dieu. Oui, alors cette semaine, 1, 2, 3. Oui, 4e bienfait. Ah oui, je t'aime beaucoup, Seigneur. 5e. Non, nous ne sommes pas dans une comptabilité qui ferait que notre amour serait en proportion de ce que nous recevons, mais dans une... relation où l'on dit « Waouh, ce que tu es est merveilleux pour moi. » J'aimerais presque dire « C'est formidable d'aimer aimer. » Vous suivez ? C'est un peu du Johnny Hallyday, ça. Hein, mais aimer aimer, c'est un sentiment exaltant, profond. Vous savez, quand on a connu le coup de foudre, moi, je n'y pas que j'ai connu un coup de foudre dans ma vie. C'est un sentiment qui fait du bien. Vous savez, vous êtes là, vous avez l'impression que voilà, tout est en ébullition. Aimer, aimer. Alors après le coup de foudre, il faut continuer à aimer, aimer. Il faut continuer. Alors, notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Je veux continuer à avoir cet amour pour toi. Je veux le cultiver. Je veux le vivre avec toi. J'aime l'Éternel. Car il entend ma voix, c'est-à-dire parce que je suis en relation avec lui. Pas simplement parce qu'il a planté une croix à Golgotha il y a 2000 ans, pas simplement pour tout ce qu'il a fait. Certes, il l'a fait, et ça fait partie aussi de cette possibilité qui m'est donnée aujourd'hui de l'aimer. Mais est-ce que ce pilier est là dans ma vie ? J'aime. Je suis amoureux de Dieu. Alléluia. Je fais mes délices de tes commandements. Pourquoi ? C'est pas parce que j'aime tes commandements. Surtout chez les Français, ça aurait pas beaucoup de succès, ça. Les lois et les commandements, c'est pas leur truc. Mais si j'aime tes commandements, c'est parce que je t'aime, toi. Quand ma femme me dit, ce serait bien que tu ranges tes chaussettes. Mais j'ai même du mal à le dire. Chaussettes. J'aime pas ce commandement-là. Mais comme je l'aime, elle, je range mes chaussettes. Elle hoche la tête, elle dit « c'est pas toujours le cas, mais je l'aime quand même ». Est-ce que ce pilier de l'amour de Dieu, de l'amour pour ce qu'il est présent dans ma vie ? Vous voyez, ce sont ces piliers-là qui font qu'à la suite de la prédication de Jean-Louis, effectivement, il y a urgence à être dans le salut de Dieu, à proclamer le salut de Dieu, parce que nous proclamons l'amour de notre Dieu, parce que ce pilier-là doit aussi reposer en nous. Il y a de l'urgence aussi à ce que la foi habite nos cœurs, nos âmes. Il y a urgence à ce que ces piliers, ces colonnes-là soient présentes dans nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que ta parole est vivante. Comme toi, tu es vivant. Merci pour ton Esprit Saint qui aujourd'hui nous parle encore, non seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Merci pour ce désir que je suis, cette expression de ce désir. Je suis comme tu es, et je suis l'expression de ton désir. Merci de pouvoir être aimé, me laisser aimé par toi, Seigneur notre Dieu, comme il fait bon se laisser entourer par tes bras, te laisser comme le fils prodigue, me revêtir d'une nouvelle robe, de guérir le passé et de m'entourer de tes bras d'amour maintenant. Tu connais nos besoins, Seigneur, il y a eu des paroles ce matin. Alors, dans le secret de nos cœurs, nous voulons venir vers toi et te dire « Je veux me laisser gagner par ton amour, par ta douceur. Merci d'accomplir ton œuvre en moi, maintenant. » Amen. On va...
partager le pain, le vin. Est-ce que je peux demander un coup de main à Jean-Louis et puis à Laurent pour j'aimerais partager avec vous un texte de la première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quel que soit notre passé, notre famille, nos titres, nous pouvons les laisser de côté et venir à Dieu avec l'héritage de Dieu. Je ne sais pas s'il ne faut peut-être pas renoncer à un héritage terrestre, mais en tous les cas, celui du ciel, un héritage en Christ est bien plus précieux. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi avant la fondation du monde, comme il m'a choisi, pour que je puisse le rencontrer en Christ, pour que ma foi se développe aussi dans la résurrection. C'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu, en Dieu. Dieu soit béni. Voilà. Voilà, ce pain vient de la terre, il a dû être cultivé. Quelqu'un s'est fatigué pour le fabriquer. Il a dû être semé, récolté. On a dû faire tout ce tri dans les épis pour récupérer le grain. Puis un boulanger le pétrit. On a fait du pain. Il y a tout un travail derrière. Derrière le pain quotidien, il y a des métiers. Et au travers de tout cela, Dieu nous le donne, on partage. L'écriture, qui est aussi une nourriture, c'est un métier, il y a eu un travail. 66 personnes qui l'ont écrite. Car dans cette parole, l'Esprit Saint va nous accompagner aussi dans cette nourriture qui est la parole, mais qui est aussi ce partage du pain, du vin. Jean-Louis, est-ce que tu veux rendre grâce pour ce pain et ce vin ?
Merci Seigneur d'avoir pourvu à tous les besoins. Mais plus encore, à celui de nos âmes, en les sauvant parfaitement, par cette mort sur la croix, par ce sang versé. Nous voulons bénir ton nom et nous le rappeler ce matin, en prenant part à cette sainte scène. Merci pour ce corps qui a été rompu, ce sang qui a coulé, qui a été bu jusqu'à la dernière goutte par la terre, mais dont l'efficacité demeure. C'est une œuvre éternelle, et nous t'en bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce sacrifice de l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour le monde. Merci, Père, pour un tel sauveur en la personne de Jésus. Merci à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie sur cette croix en venant parmi nous. Sois béni. Amen.
Amen. Voilà, on peut commencer le service par les musiciens. Et on prendra un chant qui nous dit « Tel que je suis, sans rien à moi ».